Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle, vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avait instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, donc je vais peut-être arriver à terminer aujourd'hui le chapitre 24 de Saint Matthieu. Donc nous en sommes au verset 29 sur le polycopié à la page 31. Donc c'est le polycopié partiel qui couvre les chapitres 21 à 25 de Saint Matthieu. Il y a encore bien des choses intéressantes à dire. Voilà donc ces deux versets. On commence par ça. Versets 29 et 30. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Donc là, notre Seigneur Jésus-Christ explique la fin du monde et le jugement général, et qu'il est deux fois, qu'il y a deux jugements. Un premier jugement pour chacun d'entre nous, moment de la séparation entre l'âme et notre corps, moment de la mort de chaque personne, nous serons jugés individuellement par notre Seigneur. Mais le corps, lui, restera sur terre à pourrir dans un cercueil, soit aux deux pieds de terre. Mais à la fin des temps, il y aura la résurrection générale de tous les temps. Et là, il y aura un deuxième jugement, qui sera cette fois-ci un jugement public. Pourquoi public? Parce qu'on comprendra les conséquences de nos péchés pour les autres. On comprendra aussi les péchés des nations. Je vous ai déjà expliqué que les nations en tant que telles ne vont pas au ciel ou en enfer. Mais les nations sont jugées à ce moment-là dans le sens qu'on comprendra les conséquences de toutes ces abominations politiques que nous constatons aujourd'hui. L'évacuation du bon Dieu, la séparation de l'Église et de l'État. Alors, d'abord, première question, quel est ce signe de l'homme, ce signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel? Eh bien, tous les pères d'Église sont d'accord, ce signe du Fils de l'homme, c'est la croix. Ce signe par lequel les choses célestes furent faites, le pouvoir que le Fils montra quand il fut cloué sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa royauté d'une façon assez spéciale, mais d'une façon très nette, en montant sur la croix. « Quand je serai élevé de terre, a-t-il dit, j'attirerai tout à moi. » Donc, à ce moment-là, toutes les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire seront soumises de façon complète, totale, parfaite, à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Par les puissances des dieux, on comprend tous les anges, pas simplement les bons, mais aussi les mauvais. Les bons qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, les mauvais qui luttent contre lui. Cette croix est quelque chose de très important. Et où trouve-t-on la croix? Où ici-bas trouvons-nous la croix du Vendredi Saint? Où se trouve-t-elle ici-bas? Elle se trouve dans la messe. La messe n'étant rien d'autre que le renouvellement du sacrifice de cette croix. Le sacrifice du calvaire, le sacrifice du calvaire, c'est le sacrifice de la croix. Donc à chaque fois que la messe traditionnelle est offerte, le sacrifice de la croix est offert et notre Seigneur Jésus-Christ descend caché sous les apparences du pain et du vin sur l'autel. Et c'est pour cela que dans l'église de Vatican II, c'est clair et net, ils luttent tant pour éliminer la messe. Ils ont éliminé la messe en 1969. Pourquoi? Parce que précisément à cause de cela, la messe c'est la croix. Comme ils n'avaient plus de la croix, ils n'avaient plus de la messe. Pourquoi ils ne veulent plus de la croix? Et parce que le monde moderne veut un messie glorieux, veut un messie triomphant. Mais ils ne veulent pas d'un messie souffrant. Or, la croix rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre comme messie souffrant. Et ça, ils n'en veulent pas. Et donc, le monde se divise en deux. Ceux qui acceptent la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui la place au centre de leur vie, c'est le monde catholique. Et ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, qui luttent contre la croix, c'est le monde païen. L'Église de Vatican II, c'est ça. Quand on me demande, M. l'abbé, quelle est la différence essentielle entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique, je réponds toujours la même chose. L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix. C'est donc l'Église catholique moins la messe. C'est donc l'Église catholique moins la Sainte Eucharistie. C'est donc l'Église catholique moins le sacerdoce. Tout ce qui fait, tout ce qui tourne autour de la croix est éliminé. Ce signe de la croix, donc, est devenu signe de victoire. Le signe de la croix apparaîtra, nous disent les pères, page 31 sur le polycopier, pour rejeter l'impudence des juifs quand le Christ arrivera pour le jugement montrant non seulement ses blessures, mais sa mort misérable. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et c'est en voyant cette croix que les juifs comprendront qu'ils ne gagnaient rien par sa mort et qu'ils auraient dû adorer celui qu'ils ont crucifié. Donc il y a ceux qui adorent la croix et ceux qui méprisent la croix. Tous les ennemis de l'Église ont ce point commun, la haine de la croix. Tous les amis de notre Seigneur Jésus-Christ ont ce point commun, l'amour de la croix. L'amour de la croix, c'est la perte de sa volonté propre pour suivre la volonté du bon Dieu. Notre volonté, la volonté du bon Dieu est manifestée par la croix. Relisez les, pour bien comprendre cela, relisez les magnifiques textes de la l'imitation du Christ sur ce sujet. On dit avec raison que l'imitation du Christ est le plus beau livre sorti de la main des hommes, puisque l'Écriture sainte n'est pas écrite de la main des hommes, mais de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture sainte. Par contre, hors de cette inspiration, le plus beau livre, c'est certainement l'imitation du Christ. Et dans l'imitation du Christ, sans doute le plus beau chapitre, c'est le chapitre de 12 du livre 2. Même si ça prend un peu de temps, je voudrais vous le lire pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Peut-être qu'ils sont en train de conduire, beaucoup téléchargent les textes et puis les écoutent dans un embouteillage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique chapitre, même si c'est un peu long, je voudrais vous le lire. Parce qu'encore une fois, c'est exactement le sujet. Ça parle du signe du Fils de l'homme. Donc voilà ce que dit Thomas Kempis, l'auteur vraisemblable de l'imitation du Christ. Cette parole semble dure à beaucoup de gens. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Mais il sera bien plus dur encore d'entendre cette sentence. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Ceux qui entendent maintenant avec plaisir parler de la croix et qui l'embrassent de tout leur cœur ne craindront point au jour du jugement d'entendre l'arrêt de damnation éternelle. Le signe de la croix, il apparaîtra dans le ciel lorsque le Seigneur viendra juger le monde. C'est ce texte-là. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors les amants de la croix, qui se seront rendus semblables à Jésus crucifié pendant leur vie, approcheront de leur juge avec une grande confiance. Pourquoi donc redoutez-vous la croix, puisqu'elle est le chemin qui conduit au ciel? La croix est notre salut, notre vie, notre refuge contre nos ennemis. C'est la source de consolation céleste, la force et la joie spirituelle. Enfin, la croix est le trésor de toutes les vertus et la perfection de la sainteté. Sans la croix, on ne peut espérer le salut ni la vie éternelle. Portez donc votre croix, suivez Jésus et vous arriverez au bonheur éternel. Il a marché devant vous portant sa croix afin que vous appreniez. De vous apprendre vous aussi à porter votre croix et mourir attaché comme lui. Car si vous mourrez avec lui, si vous prenez part à ses souffrances, vous aurez part à sa gloire. Tout est dans la croix, tout consiste à mourir à soi-même. Il n'y a point d'autre voie à la vie et à la paix intérieure que celle de la croix et de la mortification continuelle. Allez où il vous plaira, cherchez de tous côtés, vous ne trouverez point de voie plus élevée ni plus sûre que celle de la croix. Disposez et réglez toutes choses selon vos désirs, vous trouverez toujours à souffrir, ou volontairement contre votre gré, vous trouverez donc partout la croix. ou ce sera dans votre corps que vous sentirez quelques douleurs, ou ce sera dans votre âme qui aura à supporter les afflictions spirituelles. Tantôt vous serez abandonné de Dieu, tantôt vous serez éprouvé par le prochain, et ce qui est plus fâché encore, vous deviendrez insupportable à vous-même. Vous ne trouverez ni remède ni soulagement à vos maux. Il vous faudra les endurer avec patience autant qu'il plaira à Dieu. Dieu veut que vous appreniez à souffrir les tribulations sans aucun adoucissement, afin que les affections vous rendent plus humbles et plus soumis à la volonté divine. Il n'est personne qui comprenne mieux et qui ressent plus vivant les souffrances de Jésus-Christ que celui qui en a souffert de semblables. Il y a partout des croix qui vous attendent. Vous ne pouvez les éviter en quelque endroit que vous alliez, puisque vous portez partout et que vous vous retrouvez toujours. Regardez au-dessus de vous, ou au-dessous, ou au-dehors, au-dedans, vous verrez des croix partout. Vous aurez donc toujours besoin de patience si vous voulez vivre en paix et mériter des récompenses éternelles. Si vous portez de bon cœur votre croix, elle vous soutiendra et vous conduira infailliblement à ce terme tant désiré où l'on ne souffrira plus. Mais ce ne sera point sur la terre, sur cette terre. Si vous portez votre croix à regret, elle vous deviendra un pesant fardeau et vous redoublerez vos peines sans pouvoir vous en délivrer. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez infailliblement une autre et peut-être une plus pénible. Croyez-vous pouvoir vous affranchir d'une loi dont personne n'a encore été exempte? A-t-on jamais vu un saint dans le monde sans tribulation et sans croix? Toute la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, a été un enchaînement de peines. Il a fallu, disait-il, que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât, et qu'il entra ainsi dans sa gloire. Pourquoi cherchez-vous une autre voie que celle de la croix? Toute la vie de Jésus-Christ n'a été que croix et martyr, et vous cherchez le repos et la joie? L'erreur, erreur profonde. Si vous pensez trouver en cette vie autre chose que des peines, la vie de l'homme est tout entière remplie de misère et semée de croix. Plus un homme est avancé dans la vie spirituelle, plus il se trouve surchargé de croix, parce que l'amour lui fait sentir davantage la peine de son exil. Mais une âme dont les souffrances se multiplient n'est pas cependant privée de toute consolation. Elle s'aperçoit avec bonheur des fruits de vertu que sa patience lui fait recueillir. Lorsqu'elle se soumet de bon cœur à la volonté de Dieu, tout ce que les souffrances sont de pénibles et de dures lui devient un sujet de consolation et de confiance. Plus la chair est domptée par les souffrances, plus l'esprit est fortifié intérieurement par la grâce. Celui qui, pour se conformer à Jésus-Christ crucifié, s'attache de tout son cœur à la croix, se trouve si fort, si plein de courage, qu'il ne voudrait pas être sans douleur et sans tribulation, persuadé qu'il se rendra d'autant plus agréable à Dieu que ses souffrances seront plus grandes. Ses sentiments sont moins un effet de la vertu de l'homme que de la grâce du Sauveur. Il agit dans cette chair fragile avec tant d'efficacité qu'elle aime et embrasse avec ferveur les choses mêmes dont elle a horreur, une horreur naturelle. Il n'est point dans les penchants de l'homme de porter la croix et de la rechercher, de réduire son corps en servitude, de fuir les honneurs, de souffrir avec joie les méprises et les opprobres, de supporter les afflictions et les pertes et de ne désirer aucune prospérité dans ce monde. Si vous ne considérez que votre néant, vous ne serez jamais capable de cette vertu. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, il vous donnera assez de force pour triompher du monde et de la chair. Vous ne redouterez plus les attaques du démon si vous êtes armé de la foi et marqué du signe de la croix. Prenez donc la résolution de porter courageusement la croix comme un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ, puisque votre maître a voulu être crucifié pour vous. Préparez-vous à souffrir de grandes adversités en cette malheureuse vie, car en étant en quelque état que vous soyez et quelque lieu que vous ayez, en quelque lieu que vous vous portiez, vous trouverez à souffrir. C'est une nécessité, la patience est le seul remède contre les maux et les adversités qui nous arrivent. Buvez avec délice les calices du calice du Seigneur, si vous voulez avoir part à son amitié, à son royaume. Laissez à la bonté de Dieu le soin de vous consoler. N'enviez point le bonheur de ceux qui sont dans les consolations. Mais pour vous, prenez le parti de souffrir les tribulations. Regardez-les comme des faveurs, car lors même que vous souffrirez seuls tous les maux dans ce monde, croyez que les souffrances de cette vie n'ont aucune proportion avec la gloire qui vous est promise dans l'autre vie. Quand vous en serez venu à ce point de perfection que les peines vous sembleront douces et agréables pour l'amour de Jésus-Christ, vous pourrez vous estimer heureux car vous aurez trouvé le paradis sur la terre. Aussi longtemps que vous regarderez la souffrance comme un mal et que vous chercherez à la fuir, vous serez toujours malheureux. Les peines que vous fuirez vous suivront partout. Si vous vous mettez dans l'état où vous devez être, si vous souffrez patiemment, si vous vous mortifiez, vous trouverez soulagé et vous aurez la paix du cœur. Quand vous seriez élevé jusqu'au troisième ciel, comme saint Paul, vous ne seriez pas pour cela exempt de souffrir. Je lui montrerai, disait le Seigneur, combien il doit souffrir pour la gloire de mon nom. Il faut donc vous résoudre à souffrir si vous voulez aimer Jésus-Christ et le servir toujours. Plût à Dieu que vous fussiez digne de souffrir quelque chose pour son nom. Quelle gloire pour vous, quelle joie pour tous les saints, quel exemple pour vos frères. Tous recommandent la patience aux autres, mais il y en a peu qui aiment à souffrir. Vous devriez bien supporter avec joie les peines légères que vous avez à souffrir pour Jésus-Christ, puisque tant d'autres en souffrent de si grandes pour le monde. Soyez persuadés que votre vie doit être une continuelle mortification. On ne commence à vivre pour Dieu que lorsqu'on meurt à soi-même. On est capable de comprendre les choses célestes qu'après s'être résigné à tout souffrir pour l'amour de Jésus-Christ. Rien n'est plus agréable à Dieu, rien ne vous est plus avantageux en ce monde que de souffrir avec joie pour l'amour de Jésus-Christ. Si le choix dépendait de vous, vous devriez préférer les adversités aux consolations, parce que alors vous seriez plus semblable à Jésus-Christ et à ses saints. Notre mérite et notre perfection ne dépendent pas des consolations et des douceurs spirituelles et du courage avec lesquels nous supportons nos peines et nos adversités. S'il y avait eu un chemin plus sûr que celui des souffrances pour sauver les hommes, Jésus-Christ nous l'aurait montré par ses paroles et par son exemple. Mais il a exhorté ses disciples et ceux qui désirent la croix à porter la croix. Il a exhorté ses disciples et ceux qui désirent le suivre à porter la croix et il leur a dit: si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Après avoir mûrement pesé toutes choses, nous en devons tirer cette conclusion qu'il est nécessaire de passer par beaucoup de peines et d'affliction pour entrer dans le royaume de Dieu. Je pense que ce texte splendide, bien que n'étant pas inspiré, ce texte splendide correspond tout à fait à la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase qui nous annonce que le signe de la croix sera le signe du jugement. Donc le monde sera divisé en deux, les amoureux de la croix et ceux qui ont eu la haine de la croix. Nous reprenons les textes des Pères à la page 31. Donc le signe de la croix est devenu un signe de victoire. Le signe de la croix apparaîtra pour rejeter l'impudence des Juifs. On a déjà expliqué tout ça. Paragraphe suivant. Moralement, on doit dire que le soleil qui s'obscurcira représente le démon. Un des signes de la fin des temps, c'est le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donnera plus sa lumière, les étoiles qui tomberont du ciel. Et le soleil qui s'obscurcit représente le démon, qui sera contraint de reconnaître à la fin du monde qu'il était obscurité, mais qu'il s'était fait passer pour le soleil. Rappelez-vous, l'étymologie du nom du prince des démons, Lucifer. Le porteur de la lumière, Lux Ferré. La lune qui reçoit sa lumière du soleil est l'église des méchants, qui prétend avoir et donner la lumière, mais qui, par tous ses dogmes pécamineux, se verra alors perdre toute lumière. Donc la lumière des serviteurs du démon est une lumière trouble, une lumière blafarde. La lumière de ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, est une lumière éclatante. Quant à ceux qui, par leurs faux enseignements, leurs fausses vertus, avaient promis la vérité aux hommes pour mieux les séduire par leurs mensonges, ce sont les étoiles tombées de leur propre ciel, où elles avaient été élevées, s'exaltant contre la connaissance de Dieu. Donc les étoiles qui tombent du ciel, les puissances de Dieu qui sont ébranlées, donc représentent la chute des ennemis de Dieu. La clarté de Dieu apparaîtra sur tous ceux qui ont porté l'image céleste, ceux du ciel se réjouiront, mais ceux de la terre se lamenteront. D'autres pères disent que par l'obscurcissement du soleil et de la lune, la chute des étoiles, il faut comprendre littéralement l'aveuglement des Juifs, leur calamité, le carnage qui a été fait par Titus. Rappelez-vous Titus en 71, qui va mettre le siège dans la ville de Jérusalem pendant 3 mois, 2 mois et demi, et qui va littéralement éradiquer tous les habitants de la ville de Jérusalem. Donc, par l'ébranlement de des puissances des cieux, comprenons la fuite des chrétiens de leur ville, qui était soutenue par leur sainteté. Le soleil s'obscurcira parce que Dieu lui enlèvera non pas sa lumière, mais son pouvoir d'illumination, car il y aura de la lumière dans le soleil, mais rien d'autre que l'obscurité sur la terre. Ce fut le cas de la passion du Christ. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la passion du Christ, au moment de la mort du Christ, il y a eu un tremblement de terre, mais il y a aussi cette éclipse. Éclipse du soleil qui a cessé de donner sa lumière pendant quelque temps. on ne sait pas exactement pendant combien de temps, mais pendant quelques heures peut-être, le soleil a cessé de donner sa lueur. Hein? À tel point que Denis l'Aréopagite, qui était donc à des milliers de kilomètres en Grèce, en voyant cette éclipse, s'est dit que l'auteur du monde devait souffrir en ce moment, peut-être mourir. C'est pour ça que le soleil s'obscurcissait. Mais le soleil représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le soleil de justice qui est caché, qui se cache en général, d'une certaine façon. Alors qu'au contraire, pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le soleil de justice qui, de nouveau, resplendit, va reprendre sa place au centre du ciel. Le signe du Fils de l'homme est la croix, qui est l'étendard du Christ et la cause de la victoire des croyants. Mais ce signe qui fut le scandale des incroyants et des impies sera au jour du jugement celui de leur condamnation, de leur tourment. Voilà pourquoi les ennemis de Dieu haïssent la croix. C'est un signe par lequel on peut reconnaître un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ ont ce point commun, la haine de la croix. Ça se voit surtout dans l'islam. Chez les musulmans, on voit très bien cette haine de la croix. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais un de mes fidèles qui était colonel. Pendant la guerre, et il me disait qu'au Moyen-Orient, les musulmans avaient une telle haine de la croix qu'on pouvait même pas faire atterrir sur les terrains d'aviation, je crois que c'était d'Arabie Saoudite, les avions à croix rouge. Il fallait repeindre le fuselage des avions pour que la croix rouge soit masquée, sinon. Eh bien, les musulmans n'acceptaient pas l'atterrissage de cet avion à cause de la croix. Donc, le signe de la haine du christianisme, c'est le signe de la haine de la croix. Et on le voit très bien dans l'église de Vatican II, où la croix a pratiquement été supprimée partout. Donc, mes bien chers frères, aimez le signe de la croix. Apprenez à faire ce signe de la croix avec respect, avec dignité, avec adoration. Justement parce que ce signe de la croix, c'est le signe qui apparaîtra dans le ciel et qui sera le signe de notre victoire. Rappelez-vous aussi le signe de la croix qui a été donné à Constantin alors qu'il perdait la guerre contre son ennemi et Dieu lui a dit « Mets place ». Fais placer sur tes étendards le signe de la croix et per auxinium vinces, par ce signe tu vaincras. Et c'est ce qui a été fait. Et par le signe de la croix, Constantin a vaincu l'ennemi et a pu rétablir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, a pu établir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute l'Italie, dans toute la vie de Rome et après dans toute l'Europe, grâce justement à la croix qu'il avait fait imprimer sur tous ses étendards. Donc, que cette croix soit vraiment au centre de notre vie, que cette croix soit au centre de nos maisons, que la première chose qu'on puisse voir lorsqu'on rentre dans une maison de catholique, c'est la croix. J'ai souvent expliqué dans plusieurs de mes sermons, justement, c'est quelque chose qui me semble très important, que je voudrais voir dans toutes les maisons chrétiennes, trois signes. La croix, la Sainte Vierge, le pape. Un signe de croix, un beau crucifix à l'entrée de l'appartement, à l'entrée de la maison, ou au moins au-dessus du lieu où la famille se réunit pour la prière. Il est même bon d'avoir un crucifix dans chaque chambre, chaque pièce de la maison. Le deuxième signe qu'il faut voir, c'est l'image de la Sainte Vierge, la Mère de Dieu. Et le troisième signe, c'est l'image de la papauté, car un catholique, c'est un amoureux du pape, du vrai pape. Donc il y a une image, par exemple, du pape Pie XII, du pape Saint Pie X, du pape Pie IX. Quand vous rentrez dans la petite chapelle à Podiès, on voit bien sûr la croix au-dessus de l'autel, mais on voit aussi une très belle image de la Sainte Vierge Marie, une belle statue qu'on m'a donnée quand j'ai quitté les États-Unis, et aussi un magnifique buste du pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, le pape de la lutte contre le libéralisme. Pape Pie IX, c'est le pape de Quantacura, c'est le pape du syllabus, c'est le pape qui a condamné la grande condamnation du libéralisme et la liberté de conscience. En bas de la page 31, un autre texte des pères qui explique pourquoi la croix apparaîtra. Le signe du Fils de l'homme, la croix, donc apparaîtra dans le ciel. La croix apparaîtra pour trois raisons. D'abord, pour signifier que le Christ, par la croix, a mérité le pouvoir de jugement et de gloire. Il vient pour, sur les nuées du ciel, pour juger les vivants et les morts. Deuxièmement, pour montrer que le Christ fut crucifié, pour le salut de tous les hommes qui sont ingrats et sans excuse pour avoir négligé une telle grâce et preuve d'amour. Pour cela qu'il s'est fait homme. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était que Dieu, Dieu en tant que Dieu ne pourrait pas être crucifié. Pas possible, puisque Dieu est un pur esprit et ne pourrait pas être crucifié puisqu'il ne peut pas mourir. Alors il s'est fait homme pour pouvoir souffrir. Dieu s'est fait homme pour pouvoir mourir. Et nous voudrions passer notre vie sur la terre, dans un petit berceau de diamants, un berceau d'or, sans problème. Si vous voulez une petite vie sans problème, faites-vous protestant. Mais dans l'Église catholique, c'est la croix qui prime. Donc, le monde moderne est vraiment divisé en deux, les amoureux de la croix contre les ennemis de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ. Passons à la page 32 sur le polycopier. Donc, les pères expliquent que la croix apparaîtra dans le ciel pour la consolation des saints et pour la condamnation des méchants. Donc, elle apparaîtra dans le ciel, c'est le texte que nous sommes en train d'analyser, donc au verset 30 du chapitre 24 de saint Matthieu, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et cette croix, celle-là même sur laquelle il fut crucifié, apparaîtra au ciel au jour du jugement, et toutes les tribus verront le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est l'humanité de notre Seigneur qui est désignée par cette phrase. Donc pour la consolation des saints qui ont été sauvés par elle, qui se sont efforcés de se conformer dans leur vie par leur patience et l'esprit d'abandon au Christ crucifié, et aussi pour la condamnation des méchants qui ont méprisé la croix du Christ et qui ont sans vergogne préféré les plaisirs et la mortification. Où est-ce que je me tiens là-dedans? D'où la nécessité de l'esprit de pénitence. Quand l'esprit de pénitence disparaît dans une famille, mes bien chers frères, c'est la grâce sanctifiante qui s'en va. Parce que la grâce sanctifiante, elle est produite par la croix. On voit parfois des familles dans lesquelles l'esprit de pénitence a totalement disparu, même parfois dans la tradition. Dès qu'il fait un tout petit peu froid, on met le chauffage. Dès qu'il fait un tout petit peu chaud, on met l'air conditionné. Et on sent qu'on couvre les enfants de telle façon qu'ils ne souffrent jamais. Un enfant qui ne souffre jamais, qui n'a jamais appris à souffrir, est un enfant qui sera incapable de porter sa croix. Et s'il est incapable de porter sa croix, il sera incapable de rester en état de grâce. Parce que l'état de grâce vient nous est donné par la croix. Alors, saint Matthieu nous dit que le soleil s'obscurcira, l'œil ne donnera plus sa lumière. Il y aura en quelque sorte une nuée dans le ciel qui va cacher le soleil, cacher la lumière de la lune. Ils ne donneront plus leur lumière. Eh bien, ces nuées du ciel, c'est le symbole de la divinité qui se cache pendant la Passion. Les nuées du ciel tempéreront la clarté excessive du corps du Christ qui aurait sans cela aveugler les yeux des réprouvés. On voit très bien dans le Nouveau Testament, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaît, dévoile une toute petite partie de sa divinité, les apôtres par exemple, au Tabor, tombent immédiatement la face contre terre. La face contre terre. Complètement paniqués, effrayés de voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ se manifester un tout petit peu, parce que simplement ses vêtements sont devenus plus blancs que neige, parce que son visage est illuminé comme si le soleil se reflétait directement sur ses visages. On voit aussi, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, d'une certaine façon, dévoile un tout petit peu sa divinité, on le voit aussi par exemple à la Passion, au début de la Passion, lorsque Judas arrive pour livrer son maître, et quand notre Seigneur nous demande « Qui cherchez-vous ?» qui répond simplement « Nous cherchons Jésus de Nazareth, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui pourtant n'apparaît que comme homme, leur dit « C'est moi ». Et par ces deux mots, « Ego sum, c'est moi », tous tombent, paralysés. Paralysé par la grandeur, justement, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste derrière ses paroles. Le nuage, donc, est le symbole de la déité cachée, la divinité cachée, car elle est à la fois le siège, le véhicule et la cachette de la gloire du Christ. On voit souvent Dieu apparaître dans l'Ancien Testament à Moïse et aux prophètes dans une nuée. Il y a aussi une allusion au prophète Daniel. Voici que les nuées, sur les nuées, vint comme un fils d'homme. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ donc, va masquer en quelque sorte sa divinité pendant sa passion. Et au contraire, pendant sa résurrection, elle va réapparaître de nouveau. Hein? Ce point est bien manifesté, explicité dans les textes d'introduction de saint Ignace de Loyola dans ses exercices, juste avant la Passion. Voilà ce qu'il dit. Je considérerai, c'est le numéro 196, dans la méditation sur le Jeudi Saint, la première contemplation de la Passion, je considérerai comment la divinité reste cachée durant toute la Passion du Sauveur. Elle pourrait détruire ses ennemis, elle ne le fait pas. Elle abandonne au plus cruel tourment la très sainte humanité qui lui est unie. Je considérerai alors ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou désire souffrir en son humanité. Je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme pour m'exciter à la douleur, à la tristesse et aux larmes. Ce que je ferai avec la même application que les points suivants. Et au contraire, dans la méditation sur la résurrection, c'est l'inverse. C'est le numéro 223 des exercices de saint Ignace. Je considérais comment la divinité qui semblait se cacher dans la Passion, on vient de le voir, pareil se manifeste dans la résurrection par des effets de puissance et de sainteté qui n'appartiennent qu'à elle. Donc au lieu de demander la douleur, la tristesse et les larmes pour nos péchés, qu'est-ce qu'on demande? La grâce de ressentir une vive allégresse, une joie intense de la gloire et de la joie immense de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la croix qui semble quelque chose de rugueux, qui semble quelque chose de qu'on a tendance à rejeter, est le signe de notre victoire. Donc les catholiques, c'est l'amoureux de la croix. Pas oublier ça. Avançons dans chapitre 24 de saint Matthieu, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette et une voix éclatante, et ils rassembleront et 16 élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc c'est l'annonce de ce qui se passera dans la vallée de Josaphat. Son Seigneur Jésus-Christ fera le jugement général à l'endroit précis où il a été publiquement vilipendé, méprisé et traité plus bactère. Donc c'est la voix de l'archange qui sera cette véritable trompette, qui sera si éclatante qu'en l'entendant, tous les morts sortiront de la poussière de la terre des quatre coins du globe, au nord, sud, est et ouest. Dieu étant Dieu, il peut faire ces choses-là d'un claquement de doigts. Les saints seront donc rassemblés d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, c'est-à-dire ceux qui vivaient au début des Écritures jusqu'à la fin. Ils se rassembleront avec la trompette et d'une voix éclatante, car ceux qui attendaient vont se préparer pour ce chemin de perfection et qui conduit au Fils de Dieu. Donc c'est cette trompette qui rassemblera les élus. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, il faut comprendre cette phrase, nous disent les pères, comme signifiant que notre Seigneur Jésus-Christ va rassembler tous les hommes, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à la fin, tout ce beau monde va ressusciter d'entre les morts. Imaginez la confusion, mes bien chers frères, de tous ces politiciens véreux qui nous entourent, qui nous dirigent actuellement, quand ils vont se rendre compte que tu es Dieu. Quand ils vont voir apparaître justement cette croix et notre Seigneur Jésus-Christ couronné, roi du ciel et de la terre, portant solennellement sa croix. Imaginez leur panique. Ils se rendent compte alors que leurs mains sont vides. Quelle terrible chose que de se présenter devant Dieu avec les mains vides. Alors vérifiez, mes bien chers frères, que vos mains ne soient pas vides avant que de passer en jugement devant le bon Dieu. Versets 32 à 35. Apprenez une comparaison prise du figuier. Quand ses branches sont déjà tendres et quand ses feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passeront point que toutes ces choses n'arriveront. que toutes ces choses arrivent. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ses paroles ne changent pas. Il n'y a pas en lui l'ombre d'un changement, la vicissitude d'un changement, dit Saint Jacques. Donc pensons, mes bien chers frères, pensons justement à toutes ces choses-là. Je vous donne ce texte de Saint Jacques, qui est une source de bien des méditations. Donc voilà ce que dira notre Seigneur Jésus-Christ au moment de la résurrection générale. À vous maintenant riches, pleurez, poussez des cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille témoignera contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous êtes amassé un trésor de colère dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont maçonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et leur cri a pénétré jusqu'au... Ils ont crié, leur cri a pénétré jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les festins, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous a pas résisté. Mais ils nous appelleront, dit Saint Jacques, au contraire heureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Et comme il faut, mes bien chers frères, connaître ces beaux textes de l'Écriture sainte qui nous aident à comprendre, à ne pas nous décourager. Tout est annoncé. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, on n'est pas encore à la fin du monde, à la fin du monde, donc on n'a qu'une vie, profitons-en. Mais là encore, il y a des choses dans l'épître de Saint Jacques qui sont assez extraordinaires là-dessus. Un autre passage que je vous lis maintenant. Chapitre 4. Maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons des profits. Vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut ou si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, vous glorifiez dans votre orgueil et toute jactance de ce genre est mauvaise. Alors profitez-en, mes bien chers frères, pour justement, il faut, c'est voilà pour moi aussi, il faut changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Nous avançons, versets 32, 33, 34 et 35 du chapitre 24 de Saint Matthieu. Apprenez une comparaison prise du figuier. Quand ses branches sont déjà tendres et que ses feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Justement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ça qu'on voit très bien dans l'Église de Vatican II. Leur doctrine change tout le temps. Parce qu'ils ont perdu le roc de la vérité. Et donc la vérité de 1965, de Vatican II, c'est déjà plus la vérité d'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui ne sera plus la vérité de demain, parce que tout change. Seul Dieu ne change pas, parce qu'il est Dieu, justement. Donc le Christ, disent les pères, dans cette comparaison du figuier, signifie l'été spirituel et la paix dont le juste jouira après l'hiver. L'hiver, c'est la période de purification. Mais lorsque le printemps arrive, les feuilles naissent et on sait que l'été est proche. L'été, c'est le symbole de la résurrection de notre Seigneur. Alors, le pêcheur, au contraire, lui, il verra l'hiver après l'été. L'été, il n'en a pas profité. L'été va se transformer en hiver. Le figuier a son pouvoir vital endormi en lui pendant tout l'hiver. Mais lorsque cette saison arrive à sa fin, ses branches redeviennent tendres par ce même pouvoir et les feuilles sortent ainsi. Le monde et tous ceux qui sont sauvés avaient avant le Christ leur énergie vitale endormie en eux pendant la saison de l'hiver. Et nous, est-ce que nous sommes endormis? Est-ce que nous sommes capables de contempler cette croix de notre Seigneur Seigneur Jésus-Christ, avec lequel notre Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai peur de cette croix, j'ai honte de cette croix? L'Esprit du Christ soufflant sur ses branches rend leur cœur doux et tendre, et ce qui était endormi sortira en bourgeons et en feuilles afin de donner du fruit. Donc l'été et la venue de la gloire du Verbe de Dieu sont tout proches. Donc, d'autres commentaires des pères de l'Église en bas de la page 32. La synagogue juive est comparée au figuier. Ses branches sont l'Antéchrist, le fils du démon et les péchés. Lorsque les bourgeons commencent à donner des feuilles, l'été est alors proche. Le jugement sera bientôt là. Le figuier représente aussi la race humaine et les tentations de la chair. Donc vérifions que notre figuier porte du fruit. Si notre Seigneur Jésus-Christ voit que notre figuier, le figuier de notre âme, ne porte pas de fruit, eh bien l'arbre sera arraché et jeté au feu. Quand ses branches sont tendres et que ses feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. Quand ses branches sont tendres, ça veut dire quand les enfants des hommes, par la foi dans le Christ, ont progressé vers les fruits spirituels, que l'honneur d'être des fils de Dieu a brillé sur eux. Donc le Christ exigera de ses saints, des élus, qu'ils produisent des fruits suaves et abondants de bonnes œuvres, afin d'être trouvés dignes de goûter pendant l'été de la résurrection l'abondante douceur de la gloire céleste. Au contraire, ceux qui vont se présenter les mains vides devant notre Seigneur Jésus-Christ n'auront aucun fruit à donner à notre Seigneur Jésus-Christ, et n'ayant aucun fruit à notre Seigneur Jésus-Christ, mais le bon Dieu sera obligé de les rejeter, à les maudits, au feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Au contraire, si vous et moi, nous avons les fruits de la grâce en nous, si nous sommes en état de grâce le jour de notre jugement, notre Seigneur pourra nous dire « Venez, les bénis de mon Père. » En bas de la page 32, le sens symbolique. « Le Christ exigera de ses saints et des élus qu'ils produisent des fruits suaves et abondants de bonnes œuvres, afin de trouver digne de goûter pendant l'été de la résurrection l'abondante douceur de la gloire céleste. » Si nous aimons la croix, nous aurons déjà ici-bas des consolations célestes, au moins en partie. Page 33. La rédemption signifie la délivrance de tous les maux et misères. Ce sera l'été. Après l'hiver viendra ce très joyeux été pour tous les élus, comme le suggère la parabole. Donc l'hiver, c'est la période de purification, la période de vie purgative. L'été, au contraire, c'est la période de vie unitive. Vous savez qu'il y a trois parties, trois périodes dans la vie spirituelle. Une période de préparation, la période qu'on appelle la vie purgative, purgare en latin, ça veut dire se purifier, donc c'est une période de purification. Puis ensuite la vie illuminative, pour être illuminé par le Saint-Esprit, recevoir les lumières du Saint-Esprit. Et enfin la vie mystique, la vie unitive. La vie unitive nous amène déjà au ciel. Quelqu'un qui est en vie unitive, qui vit constamment en état de grâce, c'est quelqu'un qui est déjà au bout du ciel dans sa nature. Comme le figuier sort ses feuilles à l'approche de l'été, ce qui provoque l'apparition de figues très douces, de même les élus seront exposés à de grandes tribulations qu'ils devront affronter à la fin du monde pendant l'hiver, mais qu'ils sachent que leur récompense de leur patience est toute proche. L'été de la joyeuse résurrection qui amoncellera sur eux le fruit de tous les dons que le Christ se juge bénira pour les glorifier. Et ces dons, c'est les fruits que nous devrons donner avec l'arbre de notre vie. Et ces fruits, ils arrivent justement à la fin de l'été. Ils n'arrivent pas en hiver. Donc, il faut passer par l'hiver de la purification, l'hiver de la vie purgative, pour pouvoir donner les fruits en fin de vie unitive. Versets 36 à 41. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne sut rien, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une seulement sera prise et l'autre laissée. Et notre Seigneur Jésus-Christ continue de nous parler ici de la fin du monde. pour nous prévenir qu'un jour il reviendra sur les nuées du ciel avec le signe du Fils de l'homme, c'est le signe de la croix pour juger les vivants et les morts. Et on dit dans le credo, je crois à la résurrection des morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Il leur enseigne aussi, notre Seigneur enseigne aussi à ses apôtres qu'il connaît cette date de la fin du monde, mais qu'il n'est pas bon pour les apôtres de la connaître, car étant dans l'incertitude de la venue de leur juge, ils vivent chaque jour comme s'il était le jour du jugement, comme s'il était le jour du jugement. Donc tous les matins, quand vous vous levez, que vous faites votre prière du matin, il faut dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, je suis vivant ce matin, est-ce que je serai encore là ce soir? J'en sais rien, je ne suis pas sûr. Gardez-moi bien à vos mains pendant toute la journée. Pour que je sois prêt, si notre Seigneur Jésus-Christ vient, pour me juger aujourd'hui. Quand on commence une journée, on n'est pas du tout sûr de la terminer. On peut la terminer, on peut aussi ne pas la terminer. Donc, est-ce que je suis en état de grâce le matin? Si je suis en état de grâce le matin et je reste bien en état de grâce pendant toute la journée, le bon Dieu peut venir, même sans frapper, je suis prêt. Par contre, si mon âme n'est pas en état de grâce, quelle catastrophe, mon Dieu! Parce qu'à ce moment-là, si le bon Dieu vient, je ne suis pas prêt à le recevoir. Donc notre Seigneur Jésus-Christ refuse de donner à ses apôtres la date de la fin du monde. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc ce jour du jugement arrivera soudainement et sans prévenir, pendant que les hommes sont vautrés dans leur plaisir. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction soudaine viendra sur eux. On dit que l'arbre tombe du côté où il penche. Si je vis en état de grâce habituellement, normalement je mourrai en état de grâce. Mais si je vis en état de péché mortel habituellement, normalement je mourrai en état de péché mortel. Là, c'est le drame des pécheurs, des gens qui vivent dans le péché. Ils ne se rendent même plus compte, ils n'y pensent même plus. Que nous, au moins, nous qui sommes catholiques, mais que nous prenions conscience de ces choses-là pour ne pas rester dans le péché. Si j'ai le malheur d'être tombé dans le péché mortel, que j'aille me confesser au plus tôt. Les prêtres sont à votre disposition, mes bien chers frères. En plus, c'est gratuit, pas besoin de payer pour se confesser. N'importe quelle heure du jour et même de la nuit, dans certains cas, vous pouvez téléphoner et le prêtre entendra votre confession. Si le pape est le prêtre est le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc le prêtre doit être constamment, tout le temps, disponible justement pour entendre les confessions. Même quand ça nous gêne, je me rappelle d'avoir certains fidèles qui pouvaient venir que pendant de midi et demi à 1h30. Bon, parce que c'était le moment où ils ne travaillaient pas. Ils arrêtaient le travail, là, ils pouvaient venir se confesser. Certaines personnes qui pouvaient se confesser que de 11h30, de midi et demi à 1h30. C'était l'heure du repas. Et bien quand il venait, je mettais mon point d'honneur, évidemment, à les confesser. Je ne vais pas leur dire que je suis en train de manger, alors revenez pour la confession. Ben non, quand on voit que les gens ne peuvent pas revenir et qu'ils ont vraiment besoin de se confesser, ben on arrête le repas pour confesser nos fidèles. Donc ces deux hommes dans un champ. Ces deux hommes qui seront dans un champ, verset 40, l'un sera pris, l'autre laissé. Voyez un petit peu ce que ça veut dire d'après les pères. Ces deux hommes dans un champ sont les deux peuples, des croyants et des incroyants, que surprendra le jour du Seigneur alors qu'ils seront dans les labeurs de cette vie. Ils seront séparés, l'un sera pris, l'autre laissé. Ceci montre la séparation qui existera entre les croyants et les incroyants. Lorsque la colère de Dieu éclatera, les saints seront rassemblés dans son grenier, les incroyants seront abandonnés comme combustible pour le feu du ciel. Allez, maudits, au feu éternel, venez les bénis de mon Père. Donc ensuite, les pères expliquent la deuxième phrase. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Deux femmes moudront à la meule. Le moulin représente les œuvres de la loi. Comme certains juifs croient par les apôtres, d'autres croiront par Élie, seront justifiés par la foi. Une partie sera prise par la même foi des bonnes œuvres, l'autre demeurera stérile aux travaux de la loi, moulante en vain et ne produisant jamais le pain de la nourriture céleste. Parce que j'ai pas d'œuvre. Si j'ai pas d'œuvre, mes mains sont vides. Et si mes mains sont vides, ben Dieu ne pourra pas me prendre au paradis avec lui. Si au contraire, j'ai fait la volonté du Père, de Dieu le Père, à ce moment-là, mes mains sont pleines et notre Seigneur Jésus-Christ peut me prendre au paradis. Donc ces deux femmes qui moulent ensemble aussi peuvent être comprises comme la synagogue et l'église, qui paraissent moudre ensemble dans la loi, se nourrir des mêmes écritures et des commandements de Dieu. Les autres hérésies sorties des deux testaments moulent la nourriture de leur propre doctrine. Au lieu de moudre la farine de Dieu, elles vont moudre leur propre farine. Une phrase de Saint-Isaire, « Deux personnes dans un seul lit sont ceux qui prêchent pareillement le repos du Seigneur après sa passion, au sujet duquel les hérétiques et les catholiques ont la même confession. Mais parce que la foi catholique prêche l'unité de la divinité du Père et du Fils, ce que rejette le credo des hérétiques, le jugement divin décidera entre la confession de ces deux groupes en prenant l'un et en laissant l'autre. » Notre Seigneur Jésus-Christ est libre, mes bien chers frères, et toutes les âmes ne sont pas identiques. On voit très bien que ces trois mots nous rabâchent les oreilles à longueur de journée. Liberté, égalité, fraternité. Le bon Dieu les a en horreur, ces trois mots. C'est les mots de la révolution. C'est les mots de la haine de Dieu. C'est les mots du refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il est manifesté par ces trois termes. Liberté, égalité, fraternité. Au contraire, si je suis notre Seigneur Jésus-Christ, je dois prêcher des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Dernière phrase de la page 33, le corps est placé comme malade sur le lit des passions charnelles. L'âme moue au moulin de ce monde et les sens corporels travaillent dans le champ du monde. Donc les femmes qui moulent à la meule, justement, représentent les gens qui sont pris par les passions charnelles. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va les prendre parce que leur esprit n'est pas celui de notre Seigneur. Le Christ nie, page 34, nie connaître la date de la fin du monde comme homme, comme messager de Dieu, et ne sachant pas ainsi, ne peut nous le révéler, parce que n'ayant pas été commissionné par le Père, il ne le peut davantage. Mais évidemment, en tant que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ connaît tout, et donc connaît parfaitement la date de la fin du monde. Versets 42 à 44, veillez donc. Parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le père de ma famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne savez pas. Vraiment, se dire ça tous les soirs, est-ce que je suis prêt? Car le Fils de l'homme peut venir à l'heure que je ne sais pas, peut venir me chercher cette nuit. Combien de gens se sont endormis, ne sont jamais réveillés parce qu'ils sont morts? Ce jour viendra pour chacun d'entre nous. Il importe que ce jour de la venue du Seigneur ne nous trouve pas non préparés. Tout va dépendre de ce dernier jour de notre vie. Est-ce que je suis dans l'état de grâce? Donc ce père de famille dont parle le verset 43 est la connaissance. La maison, pour qu'il ne laisse pas percer sa maison, la maison c'est l'âme, le voleur, le démon. Donc, le père de famille doit protéger son âme contre les voleurs. Et puisque le voleur, c'est le démon, il faut protéger son âme par état de grâce. Je dis à toi, Seigneur, je marie dans mon âme, le démon ne viendra pas voler quoi que ce soit. Ce voleur représente aussi toute doctrine contraire qui pénètre dans l'âme de la personne et qui n'est pas sur ses gardes. Par toute entrée haute que la porte, en violant cette âme, détruisant ses barrières naturelles de protection. C'est-à-dire le pouvoir naturel de compréhension entrant par la faille ainsi créée pour piller l'âme. Rappelez-vous ce qu'a expliqué notre Seigneur, c'est quand il essaie de rentrer dans une âme, quand le démon essaie de rentrer dans une âme, et s'il ne peut pas rentrer, il va chercher sept démons plus que lui. Ces sept démons sont les péchés capitaux. Tous filles de l'orgueil. Le voleur ne vient pas pendant le jour, quand l'âme de l'homme prudent est illuminée par le soleil de justice, mais vient durant la nuit, dans les temps favorables aux faiblesses. Même dans l'obscurité de la nuit, quand le soleil est absent, il est toujours possible d'être illuminé par les rayons du Verbe, comme s'il venait d'une lampe. Mais notre Seigneur Jésus-Christ voit très bien pendant la nuit. Donc il faut être prêt jour et nuit. Je l'ai déjà cité comme exemple, je crois, mais je le recite là parce que ça me revient à l'esprit. J'avais été frappé en étudiant dans le sud du Mexique, les civilisations aztèques, elles adoraient le soleil. Donc elles pensaient que le soleil était Dieu. Et donc, ces peuplades savaient que dans la journée, le soleil était brillant, et donc il était là au ciel, il surveillait les hommes, et donc il ne fallait pas faire de bêtises. Mais pendant la nuit, le soleil était couché, donc on pouvait faire n'importe quoi. Donc ils commettaient plein de péchés la nuit en disant « Notre Dieu est couché, ne voit pas ce que nous faisons. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu de jour et de nuit, et voit tout le temps ce que nous faisons. Si l'âme est sur ses gardes, elle est en sécurité pour ne pas se faire voler. Elle attend la venue du juge et son arrivée sera prévenue par la pénitence pour ne pas périr impénitent et non préparé. J'ai résumé ça dans une autre phrase des Pères au milieu de la page 34 en caractère gras. Quand nous nous éveillons le matin après le sommeil, sachant que nous ne sommes pas certains de voir le soir. Quand nous nous couchons pour prendre notre repos, nous ne sommes pas assurés de voir la lumière d'un autre jour. Tenons-nous donc sur nos gardes pour ne pas être portés par de vains désirs, ne pas offenser, ni nous mettre en colère, ni convoiter des trésors terrestres. Au contraire, soyons dans la crainte du départ en piétinant toutes les choses transitoires. Vivons comme si nous allions mourir aujourd'hui, mais étudions comme si nous devions vivre toujours. Pensons à la mort, car le temps passe vite. Donc, faisons la prière du matin comme si c'était la dernière de la vie. Faisons la prière du soir comme si c'était la dernière de ma vie, que j'allais mourir cette nuit. Confessons-nous comme si c'était la dernière confession de notre vie. Communion dimanche comme si c'était la dernière communion de notre vie. Pourquoi ? Parce que le démon, dit Saint-Hilaire, est toujours aux aguets pour voler nos biens, détruire la maison de nos âmes, en les pénétrant pendant que nous sommes négligents et donnés au sommeil. Ainsi, il pourra entrer par la brèche des flèches de ses séductions. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous ne savez pas. Cette phrase, il faut la mettre, c'est un certain nombre de phrases de l'Évangile qu'on peut mettre au-dessus de son lit, hein, écrite en lettres d'or. Hein. Une que j'aime bien avoir au-dessus des lits, c'est, d'une façon ou d'une autre, c'est « Veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation, car la chair est prompte, mais l'esprit est faible. » Esprit est faible. Vous pouvez mettre aussi cette phrase « Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne savez pas. Hein. » Donc vivons comme si nous allions mourir ce soir. Le Christ donc viendra pour le jugement particulier de notre âme et reviendra pour le jugement général de tous les hommes à la fin du monde. Donc il se compare à un voleur, non pas parce qu'il veut nous voler, mais parce qu'il viendra dans les silences et le secret, comme un voleur qui pense que le maître de la maison est absent ou endormi, espérant nous surprendre pour cambrioler la maison. Le Christ met donc en garde les négligents qui ne l'attendent pas en leur parlant de la mort et du jugement. Et donc c'est là le but du don de crainte de Dieu. Don de crainte de Dieu, c'est crainte d'offenser Dieu. La sainte inquiétude, c'est ça. Don de sainte inquiétude, c'est l'inquiétude des choses importantes. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que mon âme est prête à passer en jugement devant le bon Dieu? Il faut avoir peur de trois choses. Séparation de mon âme et de mon corps, la rencontre avec Dieu, entendre la sentence prononcée contre moi. Ce texte sont beaux, mes bien chers frères, oui, il faut vraiment les connaître, les méditer. Je vous conseille beaucoup, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète, c'est nécessaire. À la fin de chaque cours, relisez, au moins un minimum, relisez le texte les chapitres ou les versets que nous avons étudiés pendant le cours. Au moins lisez ça. Vous n'avez pas le temps de relire votre polycopier, au moins relisez les textes de l'Évangile qui, j'espère, prendront alors seront compris de façon plus plénière dans l'esprit de l'Église. C'est pas une chose de comprendre les textes de l'Évangile, ce n'est une autre de comprendre les textes de l'Évangile tels que le bon Dieu veut que nous les comprenions. Voilà, donc je n'ai pas le temps de... J'arrête au bout d'une heure, donc on terminera ce chapitre 24, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous allons terminer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.